Bien, alors nous allons commencer notre table ronde finale qui sera aussi la conclusion hein, de nos deux journées de formation. Deux petites questions pratiques avant. Je vais faire circuler les attestations de présence. Donc vous prenez celles qui vous concernent, on va faire circuler comme ça. Et puis on a l'habitude de demander un bilan immédiat de la formation. Je sais que vous avez déjà rempli 9 pages. Mais celle-ci, elle n'est pas destinée à notre groupe de manière immédiate, elle est surtout destinée au service formation, puisque c'est une évaluation que l'on fait à chaud pour toutes les formations. Voilà, donc je vais faire passer aussi le document et vous prenez chacun une feuille, s'il vous plaît. Et vous me la rendiez juste avant de partir. Voilà. Voilà pour les questions techniques, pratiques. Donc, pour terminer nos deux journées de formation et notre réflexion, donc on voudrait que ce soit à la fois sur ces questions d'évolution de la professionnalité en réseau Ambition Réussite et donc et aussi sur la question donc des ressources et de cette articulation entre la recherche et la formation. Donc, ce n'est pas l'idée de discuter de manière complètement générale et abstraite, recherche, formation, etc. C'est vraiment par rapport à cette question des évolutions de la professionnalité en réseau Ambition Réussite, donc, et à partir de ce que vous avez vécu pendant ces deux jours. Donc, c'est pour cela qu'on a, en organisant la table ronde, on a prévu de vous donner d'abord la parole à vous, et puis après... à la salle et ensuite à nos intervenants. Alors, qui des trois veut bien commencer ? Honneur aux dames, c'est gentil. Marion, voilà.
Je vais essayer d'être courageuse et de retranscrire au mieux ce qui a été dit. J'avais l'impression que les chercheurs avaient le temps ce matin de rédiger, mais Frédéric m'a dit que non. Donc... Alors, tout d'abord, il y avait dans le groupe l'idée de dire que pour se projeter dans une utilisation des matériaux qu'on a vus ici, c'était déjà difficile parce que les formateurs ici présents avaient eux-mêmes besoin de temps pour digérer tout ce que ça avait pu déplacer chez eux d'être amenés à être formés autour de ces matériaux. Ensuite, dans notre groupe, il y a eu un... on était 4 du premier degré, je crois, et 3 du second degré. Et il y avait d'abord un regret qu'il n'y ait rien concernant le premier degré. Et en même temps, par d'autres membres du groupe, l'idée était de dire que en formation, on utilise des vidéos ou des papiers qui concernent un autre cycle ou un autre degré que celui auquel on appartient. Certains formateurs disaient que ça permet une meilleure décentration, qu'on est moins impliqué, donc au final voilà. Sur l'utilisation des matériaux, il y avait tout d'abord, si les matériaux sont utilisés bruts, il y a une perte du contexte et que du coup, pour éviter cette perte de contexte, il y a des précautions à prendre. Alors du coup, de la part des chercheurs ou des personnes qui mettraient à disposition ces ressources de formation, on avait pensé à deux choses. Une fiche accompagnatrice qui permettrait l'appropriation par les formateurs et du coup qui replacerait le contexte de la recherche, la focale avec laquelle on a observé... la focale d'observation au cours des vidéos ou de quand on a repêché le matériel, ou alors carrément une fiche d'utilisation, mais auquel cas ça mettait des freins dans la possibilité de former, d'être ouvert sur voilà, il y avait ces deux façons de voir. Et je dirais pour... Alors j'ai peut-être oublié des choses, mais pour finir sur l'utilisation des matériaux, toujours se demander auparavant ce qu'on voulait en faire. On a vu, nous, j'ai l'impression dans les deux jours que une première façon de voir les matériaux, c'était d'être un peu dans la bonne parole, la bonne pratique, comment il faut faire, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est mal, et que tomber dans ça en formation, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais en même temps, comment garantir qu'on va pas tomber là-dedans, c'est peut-être justement le boulot des formateurs. C'est sur ça qu'ils doivent travailler. Et se poser la question d'une utilisation des matériaux de recherche dans les formations, finalement, c'est faire tomber un peu dans le domaine public, entre guillemets, parce que c'est quand même que pour certaines personnes. Est-ce qu'on peut véritablement garantir qu'un travail réalisé par un chercheur va être utilisé en formation comme il pensait, ou avec le même point de vue, avec la même hypothèse? Enfin, je ne sais pas si c'est possible de le garantir. Donc, au mieux, on peut prendre des précautions. Au pire, ça va être mal interprété ou mal utilisé. Est-ce qu'on peut éviter ça? Je ne sais pas.
Pas de pouvoir tout raconter, mais il y a quand même une discussion au départ. On était constitués des gens de groupes différents, j'imagine, comme les autres groupes. Donc c'était pas inintéressant parce que les vécus des groupes n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et on a une discussion sur la notion de bon ou mauvais enseignant. Des vidéos, on n'était pas tous d'accord sur l'analyse des vidéos, forcément, parce qu'on reconfrontait ça. Et il y avait aussi dit qu'il y avait aussi des postures éthiques de formation, qui était peut-être de reconnaître la difficulté au métier et que pour travailler sur la professionnalité, c'était peut-être une posture. Bon, voilà, ça, je dirais que c'est un peu l'entourage. On est parti autrement après sur. J'arriverai sur les questions plus spécifiquement des outils qu'on a utilisés là aujourd'hui, mais sur. Pour reprendre la démarche qu'on a eue, il nous paraissait essentiel de travailler à partir de collectifs de travail. Donc, comment on crée des collectifs de travail, nous dans les régions, je dirais pas seulement nous les formateurs, mais nous les formateurs, les chefs d'établissement, voire en appui des chercheurs, mais ça on verra après que pour nous c'est un peu compliqué. Comment on peut susciter les questions professionnelles, parce qu'effectivement, arriver comme ça avec des outils sans qu'il y en ait besoin, c'est un peu comme dans une classe, ça pose question. La nécessité du tiers extérieur, est-ce que c'est le formateur, est-ce que c'est le formateur et le chercheur? Voilà. Alors après, sur l'objet vraiment du travail des deux jours, qui était l'évolution de la professionnalité, il nous a semblé que la question, c'est bien comment je regarde ce que je fais, comment j'essaie d'en tirer ce qui semble le plus profitable, à la fois du côté des impasses, mais aussi du côté des possibles. Vous voyez, c'est pas blanc et noir. J'espère que je trahis pas mes collègues. Il m'a été dit évaluer ou c'est extraire de la valeur. Donc la question, c'était aussi toujours dans cette histoire de positif. Constat aussi qu'on manque beaucoup de ressources dans les académies et qu'on a tous des expériences d'essais de monter, hein, moi en particulier, mais je pense d'autres, d'essais de monter des recherches. Moi, je suis à la troisième qui se casse la figure pour manque de ressources, hein, en fait, hein, et manque de support avec des collègues d'universitaires qui avaient envie, mais que voilà, on ne peut pas. Et financier. Voilà. Ah oui, manque de ressources d'un point de vue financier, c'est-à-dire comment sur l'Académie de Caen, par exemple, on peut monter des recherches à l'interne à l'interne de la région, par exemple. Et je crois qu'on a confronté, on était assez... Voilà, alors la demande par rapport... Donc il avait été postulé aussi que le formateur, effectivement, on se vivait... Alors on était plusieurs formateurs hein, dans ce groupe, et chefs d'établissement, comme lien avec la recherche, qui avait un... Dans les deux sens, hein, formateur-recherche, recherche-formateur, c'est un vieux débat, on le connaît, mais il y a quelque chose encore à certainement voir comment le tisser, comment le lier, comment le travailler. Donc par rapport au Centre Alain Savary, la demande, elle serait effectivement de créer des médias au sens large du terme, hein, pas seulement vidéo, hein, vidéo, documents, etc., qui puissent réunir chercheurs et formateurs. Ce qui a aussi été dit plusieurs fois dans les outils, pas seulement la vidéo, mais la progression qu'on a travaillée ensemble, c'est effectivement le fait que les vidéos comme ça, les vidéos brutes, sont sûrement pas utilisables comme ça. mais que c'est bien la progression qui nous a intéressés, c'est-à-dire à la fois des vidéos qui ne soient pas des vidéos modélisantes, qui ne soient pas non plus des vidéos de collègues qui s'en sortent pas du tout, hein, qui aient un curseur, ce qu'on a vécu nous comme un curseur intermédiaire, de vidéos qui amènent de la controverse, donc de la discussion, de l'échange, voire du déséquilibre, tant pour le formé que pour le formateur. Hein, parce que peut-être que la question du déséquilibre du formateur est peut-être pas inintéressante non plus, mais que ça n'est intéressant que si derrière il y a l'autoconfrontation, et puis après, quelque chose qui va construire des apports, parce qu'à un moment donné, c'est bien de déstabiliser les collègues, mais comment on construit, hein, pour être dans une dynamique de faire des essais, de se revoir, de voir où on en est, etc. Donc, la proposition rejoint d'ailleurs très fortement ce qui a été dit à ma droite, c'est effectivement pourquoi pas une vidéo avec des documents d'accompagnement du chercheur, pourquoi pas des interviews de chercheurs en réponse, comme nous on les a eues, mais là en vous interviewant, avec dans le document d'accompagnement beaucoup de précautions sur qu'est-ce que c'est que cet outil, parce que moi, je disais que j'ai pu utiliser d'autres documents, hein, sortis dans le cadre du CRN ou autres, mais qui sont souvent des documents complètement modélisants. Alors, qui ne sont pas inintéressants, mais qui sont des documents de réponse, qui ne sont pas des documents de mise au travail. Donc, la question, elle était là, quoi. Des documents qui permettent de faire émerger des représentations, qui permettent une position réflexive, qui permettent de dépasser les jugements, de ne plus être dans « c'est bien ou c'est pas bien, c'est un bon ou un mauvais enseignant ». On s'est fait la remarque qu'on était assez doué quand même pour classifier les choses comme ça, et que c'est pas ça qui est intéressant. Et que sûrement que les outils à créer, ou que vous nous avez fait vivre, hein, parce que d'une certaine façon, c'est de ça dont on est parti. C'est de ça dont on est parti, concrètement. Nous avait intéressés, je crois que je peux dire nous, hein, au nom du groupe, même si c'est jeu aussi, de ce point de vue-là, du point de vue d'amener des postures réflexives. Voilà, et qu'on n'en a pas beaucoup.
Merci. Alors, nous, la question du transfert de matériaux de recherche à la formation, on l'a abordée de plusieurs manières. Et je vais essayer de le rapporter de manière chronologique. On l'a d'abord abordée en essayant d'établir des typologies. Et on a fait deux typologies. D'abord sur les types de supports que nous avons eus là en formation. Donc des supports, j'ai presque envie de dire classiques que nous utilisons en formation, tels que des extraits de manuels, etc., mais avec le verbatim qui est à côté et qui permet une réflexion. Deuxième type de support, la vidéo à état brut. Et troisième type de support que nous utilisons très peu en formation, enfin c'est ce que disaient les collègues, c'est ce que nous disons tous, qui est un support après coup, entretien semi-directif, autoconf, voire éventuellement instruction au sosie. Dans quelle mesure utiliser ça dans le cadre de futures formations. Bon, ça, c'est la première typologie. Deuxième typologie, on est parti sur des matériaux et on rejoint les préoccupations des collègues qui tournent autour de la norme et du rapport de la norme à la formation. Et on a des matériaux qui peuvent être des matériaux modélisants. Tiens, voilà le bon prof. On a une vidéo du bon prof. C'est un modèle. On a les matériaux d'enseignement ordinaire, je reprends une expression d'un des chercheurs, de situation ordinaire de classe, et puis on a des vidéos qui sont polémiques. Moi, j'ai envie d'en exclure aucune, en me disant qu'il y a des vidéos qui doivent être utilisées à des moments différents de formation. La deuxième approche, et là je rejoins ce que disaient les collègues, la deuxième approche, c'est que, et notamment à propos des vidéos, parce qu'elles elles sont susceptibles de beaucoup plus d'interprétations, peut-être, je ne sais pas, c'est à discuter, qu'un texte, peut-être parce que nous sommes habitués au texte, j'en sais rien, à utiliser avec énormément de précautions et avec des grilles d'analyse. Alors je voudrais reprendre la grille d'analyse, les éléments d'une grille d'analyse qu'un collègue nous donnait tout à l'heure. Une vidéo, on l'utilise avec de forts éléments de contextualisation, avec un cadrage déontologique, avec des pistes de questionnement ou une problématique, et avec l'énoncé d'un arrière-plan théorique. Qui est l'arrière-plan théorique du chercheur? Est-ce que l'on doit utiliser, mettre en avant cet arrière-plan théorique du chercheur? Est-ce qu'on doit s'en affranchir complètement, le laisser de côté, parce que bon, après tout, on peut avoir, nous, en formation, des problématiques qui ne sont pas celles du chercheur. Bon, ces questions-là, elles se posent, et on n'a pas de véritable réponse. Quoi qu'il en soit, si il y a des ressources constituées à partir de matériaux de recherche, elles sont inévitablement décontextualisées, recontextualisées et détournées. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'elles soient dévoyées. Nous en détournerons, quand je dis nous, c'est l'ensemble de la communauté des formateurs, nous en détournerons forcément une partie du sens, parce que nous ne serons pas dans la problématique du chercheur et que nous utiliserons à des fins différentes. Comment construire une limite entre le détournement de ce qui est de l'ordre du détournement et de ce qui est de l'ordre du dévoiement? Là, j'avoue que je n'ai pas de réponse. Et puis, je voudrais terminer, mais alors, par un élément strictement personnel. C'est, comme disaient nos camarades, ex-camarades 68ards, d'où tu parles, camarade? Je vais vous dire d'où je parle. Et ça va rejoindre directement nos préoccupations ici. Depuis plusieurs mois, on a travaillé au sein des écoles internes et de l'université à la masterisation. Et nous, on a eu un fil conducteur qui a été de vouloir préserver la professionnalité, enfin d'une formation professionnalisante. Préserver une formation professionnalisante dans un cadre qui va changer et qui va faire que le temps de stage va être diminué. Comment pallier ce manque ? Moi, le seul moyen que je vois, c'est justement de construire ces ressources. Si nous n'avons pas de ressources qui vont servir de substitut à la pratique de classe effective dans le cadre des PE2 ou des PLC d'aujourd'hui, eh bien on manquera de matériaux pour construire une formation vraiment professionnalisante. Donc c'est un appel que je lance là, aux chercheurs.
Merci beaucoup à tous les trois. Vous avez vraiment bien joué le jeu. Super. Donc, à vous de réagir, de compléter, d'ajouter, de dire autre chose. D'insister sur un élément qui vous semble important.
Je partage le dernier point de vue sur cette modélisation, en tout cas entre les vidéos modélisantes, ordinaires, problématiques. On n'est pas obligé de s'interdire de travailler avec les modélisantes et les problématiques, mais peut-être qu'il faut les hiérarchiser. Et qu'il faut comprendre cette dynamique de transformation. C'est-à-dire que là aussi, ça montre bien que pour pouvoir aborder ces questions-là et tirer profit de ce type de vidéo, c'est dépasser cette évaluation hein, par rapport à des normes et puis par rapport à une sorte de... Je crois que c'est la première priorité. Et ensuite, de montrer la dynamique de transformation et ce développement professionnel. Et si on est au cœur de cette... Oui, de ces transformations, on peut travailler avec des matériaux borderline, des matériaux en deçà et en dessous d'une norme, mais en étant très prudent dans ces passages.
Oui, moi, c'est la suite. Je trouve un peu dangereux le concept de vidéo modélisante. Il peut y avoir des théories qui servent de modèle au sens qui permettent d'analyser. Mais une vidéo en soi ne peut pas être modélisante. C'est un acteur à un moment donné. On ne sait pas ce qu'il est d'ailleurs avant, on ne sait pas ce qu'il est après, etc. Donc, que la vidéo en elle-même soit modélisante, elle peut être perçue. Alors, justement, aux formateurs de faire attention. Parce qu'on sait très bien en formation, notre expérience de formation fait que si on a des vidéos modélisantes, qui apparaissent comme modélisantes, elles jouent les contre-effets immédiats. Hein. C'est-à-dire qu'elles empêchent en disant « oui, mais ça, c'est pas pour moi, ça, je suis pas capable, lui, il a eu le chercheur à côté de lui pour faire son truc, etc. » Donc il faut qu'on réfléchisse hein, sur... Il y a des principes qui peuvent être des modèles, une construction théorique interrogeable et questionnante, mais je crois qu'il faut trouver un autre terme. Hein.
Par rapport à l'utilisation de l'outil, la vidéo, par rapport à la modélisation que ça peut être, enfin comme elle peut être perçue par des jeunes enseignants, on a dit de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut toujours présenter l'intention avec laquelle elle est utilisée, pourquoi elle est utilisée, et ce vers quoi on veut que les stagiaires de la formation, enfin. Qu'est-ce que vous avez à observer dans cette vidéo? Voilà pourquoi on vous la montre. Je crois qu'annoncer l'intention, c'est ce qui a été dit dans notre groupe, et je crois que c'est fondamental.
Je voudrais revenir à propos de la demande que nous, formateurs, faisons à Savary, Centre Savary. C'est vrai que cette question est itérative depuis fort longtemps. Quelle est la relation entre la recherche et l'enseignement? En sachant que les formateurs sont les médias. Les formateurs, enfin, c'est mon point de vue, sont justement cet entre-deux entre la recherche et les enseignants. On a donc un Alain Savary, un centre Alain Savary, qui nous dit, eh ben nous, on va vous faire ces outils-là, on est ressources, on va vous fournir enfin ce qu'il vous faut. Et il s'adresse à nous, formateurs. Donc ça, c'est très bien. C'est pour ça que je réitère ce qui a été dit. En fait, ce dont on aurait besoin, c'est justement de ces vidéos. Parce que les textes de la recherche, on peut les trouver. Et on peut se les approprier et en faire notre miel. Mais par contre, ce qui nous est plus difficile, parce qu'on n'a pas les compétences techniques, et puis aussi, techniques de deux façons. D'abord technique, technico-technique, pour faire du film, pour faire de l'image, et on n'a pas les compétences de chercheurs. Donc c'est vrai que avoir directement des résultats de la recherche par le biais de prise d'image, de zoom sur la classe ordinaire, accompagné de ce qui est, comme on l'a vu, accompagné de beaucoup, je sais pas, ça dépend, mais du commentaire et du travail du chercheur, ça me paraît être vraiment un outil idoine. Et moi, je dirais que les quelques vidéos que j'ai vues là dans l'atelier 2, enfin la co-animation, même ceux-là, ils sont utilisables directement par un formateur. Donc voilà, Centre Savary fournissait ce genre de choses.
Christine pourra répondre. Là, je lui donne tout de suite la parole, je crois, et après à toi, Luc.
Donc, moi, je voulais juste dire que la technique, il y a un mois, j'y comprenais rien. Donc, dans l'urgence, j'ai dû m'y mettre. Au mieux, donc j'ai fait un petit test préalable sur l'Académie d'Aix-Marseille où ils avaient trouvé que mes vidéos étaient trop longues et trop lisses. Donc je me suis dit, en arrivant ici, bon, vous avez bien compris que j'ai écrit à Luc qui ne m'a jamais répondu, et en arrivant ici, je me suis dit, voilà, mes préoccupations c'est de... Alors c'était animer, ça c'était la commande, je devais animer, non pas former, on était clair au début. Bon, au cours des deux jours, je suis devenue un peu plus formateur, à la demande du chercheur et puis des attentes. Et donc, c'était de susciter des controverses professionnelles à partir de vidéos. Donc, j'ai eu une évolution de l'animateur à formateur. Bon, en plus, je me suis construite des compétences techniques vidéo. Enfin, c'est bien, au moins, j'ai appris beaucoup. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le livret d'accompagnement du chercheur me semble essentiel par rapport au contexte que je n'avais pas du tout. On m'a donné ces matériaux, voilà, sans contexte. Ben, on avait travaillé peut-être le matin un petit peu, mais j'avais ni le contexte, ni les enjeux initiaux de ces matériaux. Et en fait, je suis désolée, vous êtes un peu les cobayes, mais c'est avec l'évolution de ces journées que tout ce qui était implicite chez Luc, en tant que chercheur, est devenu explicite, en fait. Parce que moi, lui, il était deux, l'autre est prof référente, elle était cinq, ben ça, je savais pas. Ah, il y a 15 élèves? Ouais. C'est le contexte de Créteil. Ben moi, je viens de Marseille, donc, si vous voulez, comme il m'a jamais répondu, je voyais pas trop la différence, Créteil. Bon, j'y suis allée à Paris, hein, 6 ans, mais. Donc, si vous voulez, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai une évolution aussi en tant que formateur. Et je crois que l'évolution de mon statut d'animateur à formateur joue beaucoup dans la présentation des vidéos, parce qu'à chaque fois j'ai présenté les mêmes vidéos, mais en fonction du contexte que j'ai mis, des précautions d'usage, ça n'a pas induit les mêmes effets. Et ça, voilà, je voulais dire qu'il y a une évolution par rapport à ça. Voilà. Et je suis au top de la technique vidéo.
Vous avez compris le message. Christine M vend ses services dans toutes les académies pour faire de la formation. N'hésitez pas. Plus sérieusement, c'était sérieux. Hein, mais, réaction par rapport à Dominique un peu en retard, mais je crois qu'il y a une vraie question sur la notion même de vidéo modélisante. Enfin, je voudrais la reprendre comme ça parce qu'il me semble que pour moi, c'est très clairement quand je modélise l'activité des débutants, que je repère des passages à risque ou des situations professionnelles qui sont vécues de façon régulière comme difficiles, comme l'entrée en classe, la mise au travail des élèves, on peut repérer des modélisations efficaces, c'est-à-dire des dispositions à agir qui sont partagées par un certain nombre de profs, de façon plus ou moins implicite, dont la recherche permet quand même de porter un éclairage par rapport à cette situation-là, et qui permet de rendre compatible à la fois des préoccupations en termes d'économie de soi pour durer dans le travail sur plusieurs mois ou sur un peu du moyen terme, et qui quand même, d'un point de vue de critères d'efficacité, en termes d'ambiance de classe, en termes de mise au travail des élèves, sur des critères assez objectifs, on peut tous s'accorder par rapport à ça. Donc pour moi, cette modélisation, ce n'est pas une modélisation conformante, mais c'est bien un moment provisoire, éphémère, d'équilibre professionnel, qui donne des pistes pour des professeurs stagiaires. Et c'est là qu'il faut aller, à mon avis, pour montrer à la fois le caractère circonstanciel, provisoire, éphémère, et non pas conformant de façon systématique, comme le fait malheureusement Sébastien Clerc, qui donne des modèles figés de tenue de classe. Et si on oublie la complexité même du développement professionnel et tous ces enjeux subtils, on caricature ce que c'est que le développement professionnel.
Je voulais, mais du coup je vais être plus bref, parce que je voulais réagir par rapport au point sur lequel Luc vient de réagir, c'est-à-dire cette idée de vidéo modélisante. Après avoir dit quand même que je suis un peu entre stimulation et stupéfaction par la qualité des trois restitutions, pour reprendre les termes de Michel Bois au tout début de l'ouverture de ces journées, non, je trouve vraiment qu'il y a des choses qui ont été pointées, qui témoignent d'une analyse que je trouve particulièrement pertinente de ces questions entre relation recherche-formation, et qui recoupe assez largement ce que, de notre côté, on avait pu identifier comme piste de travail. donc, sur cette question de vidéo modélisante, comme Luc vient d'apporter un certain nombre d'éléments, j'en profite pour essayer peut-être de faire le lien avec la thématique de la table ronde, qui est le rapport entre recherche-formation. Là où il me semble que la recherche commence à être en capacité de pouvoir étayer le travail de formateur, c'est que il y a certaines façons de faire typiques. Alors je vais prendre l'exemple des débutants, parce que c'est l'objet sur lequel je travaille plus particulièrement. Il y a certaines façons de faire typiques qui, lorsqu'elles sont proposées à des débutants, apparaissent assez rapidement comme des ressources possibles pour eux. Je prends tout de suite un exemple pour être plus clair et pour contextualiser. Il ressort des travaux, aussi bien ce que fait Luc que ce que je conduis sur l'entrée dans le métier, que par exemple, il y a une façon de faire qui consiste à prendre la classe dans une classe difficile, qui passe justement pas par les mêmes gestes professionnels que ce que va mettre en œuvre un enseignant expérimenté, avec une ritualisation de l'accueil, l'appel comme outil pour capter l'attention des élèves, etc., mais plutôt par une mise au travail de la classe pour pouvoir prendre la classe plus efficacement après. Et cette façon de faire qui est assez simple finalement, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de débutants qui se forgent cet outil-là au contact des difficultés qu'ils rencontrent, à l'épreuve des difficultés. Et quand on travaille ensuite en formation sur ce type de vidéo, qui renvoie finalement à une sorte de typicité dans l'activité de ce que j'appelle le genre débutant, des choses qu'on retrouve de manière récurrente chez les débutants qui sont dans des disciplines différentes, voire dans des degrés d'enseignement différents, ben ça apparaît très rapidement comme une ressource opératoire possible. Non pas comme une bonne pratique, mais comme un geste professionnel possible qui les aide à recycler ce qui provisoirement les empêche d'aller plus loin. Donc voilà un exemple, il me semble, d'apport que la recherche pourrait avoir, et elle commence à avancer sur ce chantier-là, en fonction du stade de développement de l'expérience professionnelle, et c'est pas la même chose si on s'adresse à des néo-titulaires ou à des enseignants très expérimentés, quels sont le type de vidéo pour rester dans la catégorie de celles qui sont modélisantes, entre guillemets, avec les restrictions qu'a apporté Dominique, sont susceptibles de finalement s'inscrire dans, en quelque sorte, une zone potentielle de développement professionnel des stagiaires avec lesquels on travaille. Et là, il me semble que la recherche commence à être en mesure de pouvoir justement offrir une sorte de continuum de vidéos qui permettent de travailler ces questions de développement professionnel.
Oui, deux ou trois remarques, hein, parce que beaucoup de choses ont été dites, mais il faut bien que je remplisse mon rôle, que je justifie ma présence ici, sinon vous allez vous demander ce que je faisais. Nous touchons là à des questions classiques de la diffusion des résultats de recherche, et notamment de la recherche vers la formation. Depuis quelques années, l'idée que la recherche se diffuserait sur le mode de la tache d'huile est une image, une métaphore à laquelle on est obligé de renoncer parce que ça ne marche jamais comme ça. Et qu'on sait bien qu'on peut très bien vivre, nous, dans notre monde, en faisant du CV, en faisant des livres que personne ne lit jamais, sauf nos collègues, etc. J'ai déjà dit ça. Donc tout ça peut parfaitement, les deux univers peuvent parfaitement coexister sans que rien ne change. Il faut que vous sachiez, mais vous le savez sans doute, que nous sommes aussi régulièrement flingués par des collègues qui pensent qu'on se compromet en s'intéressant au monde impur de la formation et que la recherche s'abîme, se corrompt dès qu'elle descend du ciel des idées dans la matérialité de la caverne. Voilà. Et on renoue avec le premier jour. Hein, il avait cité Platon, le collègue aussi. Donc ça vient de très très loin, cet aspect-là. Alors peut-être qu'on est en train de devenir un peu plus aristotélicien, de penser qu'après tout, il y a plusieurs genres de discours, que les dialectique entre les deux et tout ça. Bon, mais on va pas. C'était pas l'objet de ce que je voulais dire. Il me semble que les modèles qui ont été développés, je pense à des modèles comme ceux de Bruno Latour en termes d'espace d'intéressement, l'idée que devient la science quand elle sort du laboratoire. Pourquoi Pasteur écrit-il des dizaines et des centaines de lettres à des brasseurs de bière, à des viticulteurs pour les convaincre que c'est intéressant de travailler sur les levures et autres, et qui fait un travail qui paraît totalement dément à ses collègues de l'université de l'époque, mais qui ont réussi à installer de façon durable des circuits, des réseaux dans lequel circule à la fois de la science, du commerce, des affaires, du bon vin, de la bière. C'était juste pour Luc. Non, toute référence à des événements récents serait absolument fortuite. Donc voilà, il faut créer des espaces d'intéressement avec le risque, évidemment. Dans ces espaces-là, il y a forcément de la traduction. Parce que les acteurs qui sont là ne viennent pas chercher les mêmes choses. Il faut donc des rapprochements. C'est une pensée de caractère oblique qui se développe, mais qui dit traduction, dit évidemment possibilité de trahison. On connaît tous cette possibilité. Et là, il me semble que il y a deux attitudes. Il y a ce que vous avez dit, certains, et à quoi nous avions réfléchi en même temps, mais dans une salle différente, à savoir que il serait sans doute important et nécessaire d'avoir une sorte de vademécum du kit qui serait désormais sur le marché pour dire quelles ont été les intentions du chercheur, y compris si ni le formateur ni les formés ne sont intéressés à aller lire ce que sont ces intentions, mais il y a à la fois une démarche, je dirais, déontologique, qui consiste à dire voilà pourquoi ces matériaux ont été prélevés, et aussi si vous souhaitez les utiliser dans le sens où nous-mêmes l'avons fait, alors voilà quelles sont les grandes problématiques en jeu, les concepts que nous utilisons. Et maintenant, vous pouvez aussi en faire ce que vous voulez, de toute façon, c'est ce que vous ferez. Et au fond, tous les manuels sont voués à ce sort. On peut lire les introductions, ne pas les lire, ou les lire après, quelques années après. On dit tiens, c'est ça qu'ils voulaient, moi j'avais pas vu. C'est dans le domaine public, c'est normal, c'est comme ça. Il me semble cependant que, pour pas tomber dans un relativisme total, la prétention des matériaux qu'on vous a proposés, c'est d'avoir tout de même une certaine significativité. Je crois que Luc parle de typicalité, c'est-à-dire que c'est pas quand même n'importe quoi. Ce sont des matériaux, et je crois qu'on le voit bien à l'effet de reconnaissance et de projection auquel ils donnent lieu sur les gens à qui ils sont soumis, que ça indique des situations que vous n'avez pas vécues, mais dont vous avez vécu certains des schèmes fondamentaux, même si c'est pas tous à la fois, même si c'est certains d'entre eux, et que c'est là que je crois la qualité possible de notre travail. Voilà pourquoi il est nécessaire que ce soit nous qui nous risquions à les découper au départ. Pour susciter ces projections après, c'est le rôle du formateur de le travailler dans un sens qui ne soit pas celui de la modélisation. Et toutes les formations risquent, courent ce risque de la modélisation. Donc, dans nos démarches, au fond, on est là dans les critères scientifiques habituels dans lesquels nous débattons. Notre pauvre administration de la preuve est rarement une administration de caractère quantitatif, de l'ordre de la représentativité, mais de l'ordre de la significativité des logiques d'action. Et je crois que c'est ça qui s'incarne dans les matériaux qu'on vous offre. Quand je vais voir le film Entre les murs, je ne me demande pas ce qu'a voulu dire le cinéaste, etc., ou Bégodeau. Ça met d'une certaine manière, alors évidemment je pourrais le faire d'un point de vue esthétique, mais c'est pas trop celui avec lequel j'y vais quand je suis moi-même professionnel de la formation et l'éducation. Je le regarde comme des situations qui me parlent immédiatement, comme des situations dont je sais que ce sont des vraies situations, même si elles ont été réécrites, même si on a fait mis des rails pour faire un travelling dans la salle, et etc., bon, tout ce qu'on sait, ce sont des situations qui pourraient avoir du sens. Il est pas sûr, y compris lorsque je m'en sers en formation, que je le fasse dans l'esprit qui a été celui de l'auteur du film et dont finalement l'intention m'est relativement indifférente. Lorsque je dis aux étudiants, par exemple, lorsque tel élève croit que l'Argenterie, c'est un habitant de l'Argentine, je mets peut-être dans l'analyse que je fais ensuite des choses qu'il n'y a pas vues lui-même et qui peut-être n'y sont pas, mais que je prends le risque de mettre. À savoir que ce qui manque à cet élève, ce n'est pas simplement le mot de l'argenterie, mais c'est le concept de qu'est-ce que c'est une argenterie, c'est-à-dire un moyen assez sophistiqué de découper la viande, la volaille, le poisson avec des outils différents, une véritable caisse à outils, quand on a chez soi peut-être un outillage beaucoup plus sommaire pour se livrer au même type de découpage. Donc là, on est dans un usage social qui se confond avec un mot. Et ça devient tout simplement un concept. Il me semble, moi, j'essaie d'analyser ça en termes socio-cognitifs. On est dans les deux étages à la fois, sinon on ne comprend pas, de mon point de vue, l'erreur de l'élève et la difficulté de la remédiation de l'enseignant. Il ne suffit pas de lui apprendre le mot pour qu'il apprenne le concept de l'outil. Est-ce que c'est dans le film, est-ce que ça y est pas? D'une certaine manière, je n'en sais strictement rien, mais moi, ça m'aide drôlement pour essayer d'expliquer certaines choses, surtout quand je sais que tous les étudiants ou à peu près ont vu le film et qu'on peut parler de situations qui peuvent être des situations de la vie réelle, de l'enseignement. Voilà, donc là, c'est la manière de problématiser. Les formateurs, c'est quand même leur job aussi de reproblématiser en formation. Moi, j'ai retenu, je crois, cette leçon de Jean-Louis Martinan, hein, qui, je crois, là, a avancé une notion tout à fait importante, qui est la notion de reproblématisation. La manière dont il faut, selon lui, regarder les choses, c'est pas de se demander si on peut appliquer les concepts de la recherche à la formation, c'est de se dire que les concepts de la recherche, c'est une certaine problématisation. La formation, ce n'est pas une pratique, c'est aussi une problématisation. Et donc, il est tout à fait possible de reproblématiser dans des termes de formation ce qui a été problématisé dans des termes de recherche. Il me semble que c'est là que se jouent vraiment les choses et pas dans cette opposition totalement stérile entre théorie et pratique, le ciel des idées et le monde des opinions. Ça, c'est, je crois que c'est vraiment à être dépassé. Il faut faire confiance aux formateurs pour ça. Sur le dernier point, à savoir, est-ce que ce matériau peut servir, je ne sais pas s'il faut dire, de substitut au stage, mais en tout cas de matière de pratique, d'analyse de pratique, je crois que oui. Je crois que dans la question des masters aujourd'hui, il y a un malentendu assez important et parfois un peu de mauvaise foi. Beaucoup de gens aujourd'hui reprochent la belle époque où on plongeait les stagiaires dans l'eau bouillante, c'est-à-dire où on les mettait comme moyen d'enseignement en stage en responsabilité. Tout le monde avait protesté à l'époque. Tout le monde proteste aujourd'hui parce qu'il n'y a plus le stage en responsabilité. Il y a d'autres modalités de formation. Je pense que celle-ci en est une parce que c'est des vraies situations et qu'on sait bien qu'on forme d'autres professionnels comme ça aussi, les médecins par exemple, dont le diagnostic et la pratique ne sont pas sans efficace sur nos propres vies. Donc pourquoi on ne ferait pas pareil pour les enseignants? Et je crois qu'il y a là une possibilité d'utilisation de ce type de matériaux qui, sans se substituer à la confrontation en vraie grandeur à un moment donné avec des vrais élèves, évidemment, mais prépare bigrement le terrain, d'autant que c'est, n'oublions pas que ces situations, elles ont été vécues avant que l'on soit enseignant comme élève et que je crois qu'elles parlent à chacun d'entre eux.
Oui, soit on considère qu'il y a, enfin, je partage complètement cette idée d'une double activité, une activité d'un chercheur liée à un contexte, à des préoccupations de chercheur, donc une activité indépendante à la visée de formation, et donc une reproblématisation même des résultats de la recherche à des fins de formation, soit on considère, et peut-être qu'il y a des gens qui travaillent comme ça en didactique professionnelle, que directement l'étude du travail est effectuée directement à des fins de formation, avec éventuellement cette suppression d'étanchéité entre les deux compartiments. Et c'est vrai que ça indexe autrement et ça problématise autrement les questions même de la formation.
Moi, je voulais dire, là, c'est la suite de la conversation, qu'on est, je crois, ben, à des moments de mutation très forts, hein, très très forts. Disparition de la formation continue annoncée ou transformation de la formation continue, transformation de la formation initiale. Et donc, quelque part, ce que je voulais dire, c'est que devant ces moments de mutation, je pense qu'il nous faut être d'autant plus audacieux dans nos propositions. C'est-à-dire qu'il nous faut aller plus loin que nos habitudes, d'essayer d'être en position de proposition, j'allais dire presque en position d'utopie. Parce qu'on ne peut pas avancer sans ça, me semble-t-il. Et donc il me semble, très sincèrement, là, je vis une période là où On a fait de la formation depuis 2 ans dans un certain nombre de secteurs. On est en train d'aller voir ce qui se passe et on n'a pas des résultats spectaculaires. Et donc, quelque part, on se dit, pourtant, on y a mis de l'énergie, de la force, du courage, de l'invention, de la recherche, etc. Donc, peut-être qu'effectivement, arrêtons de pleurer sur la formation continue, essayons de penser que peut-être aujourd'hui, il faut faire la formation continue, puisque c'est de ça qu'il était question beaucoup aujourd'hui, autrement, sans forcément tout jeter, évidemment. Et je reviens donc sur cette proposition-là, audacieuse, de constituer des collectifs de travail. Et il me semble là que... Alors évidemment, on peut se dire qu'administrativement, c'est pas possible, qu'on n'a pas de sous, qu'on n'a pas ceci, qu'on n'a pas cela, impossible. Et pourtant, il y en a qui y arrivent. Parce qu'ils vont trouver des moyens, ils y arrivent. Ils inventent un système, ils bidouillent, etc. Parce que très profondément, je pense que une des solutions, elle est probablement là. Elle correspond aujourd'hui à la nécessité de penser le métier, je ne sais pas s'il faut le transformer, mais d'avoir un autre niveau de conceptualisation du métier. Professionnaliser, pour moi, c'est avoir un plus grand niveau de conscience de ce qu'on fait pour pouvoir être plus à même d'avoir une opérationnalisation plus précise, plus ajustée, plus pertinente, puisque d'une heure à la suivante, du début du cours à la fin, on a des tas d'événements qui se produisent devant lesquels il va falloir se préparer. Et donc, il me semble que constituer le plus possible des collectifs de travail... Et comme vous l'avez dit, non pas des collectifs de travail fermés sur eux-mêmes, parce qu'on sait très bien que ça donne rien, mais des collectifs de travail avec un tiers, qu'il soit un chercheur ou un formateur en lien avec une équipe de recherche, etc. Moi, je pense qu'il y a des pistes très fortes là-dedans. La deuxième idée, c'est la, on voit bien que les transformations des modes opératifs ou de la conceptualisation, si on prend le paradigme de Pastret, il faut du temps et de l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il faut que ça bouge lentement et que ça avance lentement, qu'il y ait du développement. Et donc, il faut que ces collectifs puissent travailler sur la durée d'un an, ou voire probablement d'au moins 2 ans, pour commencer à comprendre, installer des choses. Donc, soyons audacieux dans nos propositions, même si ce n'est pas généralisable, essayons de démultiplier, si possible, ce genre de situation. Et pour ce qui est du lien recherche-formation, je reviens sur l'idée qui est développée dans mon laboratoire, notamment par Serge Leblanc, qui montre bien que la nature de nos travaux de recherche, et probablement leur côté passionnant, c'est l'effet boucle. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de propositions avec les théorisations, de moments ressources, etc. On travaille sur le terrain, et puis à nouveau, pof, comme on a vu aujourd'hui dans les ateliers. Moi, très riche pour moi, ce que j'ai entendu sur notre zone de travail, parce qu'il y a de nouvelles questions qui apparaissent, des collègues ont bidouillé à leur façon, ont de nouvelles questions, et ça continue. Et je pense qu'il faut qu'on aille non seulement à un développement des individus, mais un développement de la profession, et des questions qu'on se pose sur la profession, et là, la recherche a toute sa place. Et une recherche qui fabrique de la théorie, parce que c'est son boulot, hein, qui fabrique des savoirs, des concepts, qui croisent des concepts, une recherche qui est en même temps une recherche technologique, parce qu'y compris il y a crise dans la recherche, il y a transformation dans la recherche. Alors on peut la condamner, certains la condamnent. J'ai un mari qui est en sciences dures, comme on dit, et qui est désespéré parce que la recherche fondamentale se réduit comme peau de chagrin. Moi qui ne suis pas forcément sur le même versant, je trouve que des recherches technologiques telles qu'on commence à nous les demander plus ne sont pas forcément inintéressantes et que nous avons toute notre place à construire. Et donc, quelque part, le statut des documents, des formes de travail que nous sommes en train d'inventer sont en train de répondre à ces mutations. Et simplement, ce que je voulais dire, soyons audacieux, carrément audacieux dans nos propositions et affirmons un certain nombre de choses. Et cette affirmation, elle va être le fait de collectifs mixtes, de collectifs d'enseignants, de principaux, de formateurs, de chercheurs, d'instituts. C'est un peu ce que je voulais dire.
Soyons audacieux. Soyons audacieux. Et alors, moi qui suis ici à Lyon, je suis venue l'an dernier dans le colloque qui ressemble à celui-ci. Et l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une équipe qui vient d'Aix, et puis ça a l'air d'être des gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble depuis longtemps. Il y a des chercheurs, il y a des formateurs, il y a des maîtres de conférences. Et bien alors justement, expliquez-nous comment on peut être audacieux et comment on peut créer. Comment ça s'est fait, cette histoire d'équipe qui travaille ensemble sur un même sujet et sur un si long temps? Donnez-nous cet exemple-là.
Alors, un exemple, parce qu'il y en a, plusieurs. L'exemple qu'on pourrait prendre, c'est celui de la formation du GAP, groupe d'appui pédagogique. Donc, par exemple, il y a à peu près 2 ans, on a rencontré à l'époque Chantal Février, qui était donc l'IPR en charge du dossier éducation prioritaire, qui a travaillé aussi auprès de quelques enseignants qui avaient envie de peut-être réfléchir sur ces questions de dispositifs qui étaient en train de se mettre en place, qui ont donc fait remonter ces demandes, ces propositions auprès des IPR, les IPR aussi, qui ont sollicité quelques enseignants. Et à partir de là, s'est constitué un groupe de professeurs dont fait partie, par exemple, Christine, Valérie, donc à côté de toi, Roxane. Voilà, donc une quinzaine de professeurs issus de quasiment presque tous les collèges en mission réussite de Marseille. Il y a 21 réseaux en mission réussite sur Marseille. Donc on a de quoi faire, bien sûr. Voilà, donc, et à partir de là, on a essayé de réfléchir un petit peu à ce qu'on allait faire. Alors au départ, c'était plutôt des gens qui voulaient réfléchir sur le statut de professeur référent et de comment ils pouvaient finalement asseoir leur légitimité face à toutes les nouvelles fonctions, les nouvelles missions dont ils étaient chargés. C'était un peu ça la commande. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre travail qui pouvait être fait, par exemple cette année, au niveau de la constitution des assistants pédagogiques. Donc on a essayé d'articuler ce travail de recherche et formation dont on parle depuis tout à l'heure. On a essayé de constituer avec eux des matériaux, puisque finalement ils sont en première ligne. C'est aussi chez eux et avec eux et avec leur concours et à leur demande qu'on va dans leur classe et au moment de ces interstices, dans différents milieux de travail, on filme. Ils sont aussi soumis aux autoconfrontations, ils sont aussi soumis à la constitution de collectifs de travail. Ils s'exposent aussi devant leurs collègues en montrant leurs difficultés, leurs potentiel, au niveau du métier. Et puis ensuite, ils ont accepté, un peu comme les matériaux de Luc, c'est-à-dire une certaine autonomie. Bien, par exemple, l'année dernière, on vous a montré sur Marseille des situations, soit de travail personnel, avec des collègues qui sont dans des situations professionnelles parfois qui ne sont pas toujours non plus extraordinaires, et dont ils ne sont pas toujours très satisfaits eux-mêmes. Mais voilà, il y avait décision que ces situations de travail soient montrées aussi peut-être pour pouvoir constituer une réflexion autour de ces situations de travail plus ou moins difficiles. Et puis, dernière étape, c'est celle de se dire, on peut aller encore un petit peu plus loin, on peut aussi former les gens du GAP à des outils de recherche et de méthodologie. Donc tout à l'heure j'ai entendu le collègue qui parlait d'autoconfrontation, qui parlait d'instruction au sosie, et donc on a essayé de faire ce travail avec les 15 ou 16 personnes membres du GAP, de les entraîner, de travailler avec eux sur ces questions là pour que progressivement non pas la tâche d'huile qui ne marche pas, comme le rappelle Patrick, mais au contraire qu'on imagine un autre dispositif de formation, c'est-à-dire pas des gens qui viendraient comme ici sur une forme traditionnelle, mais au contraire, par exemple des membres du GAP qui vont au plus près du travail dans les réseaux et qui vont travailler à partir des problématiques de l'établissement et du réseau. Donc là, par exemple, cette année, le travail qui a été fait, c'est la formation des assistants pédagogiques. Donc on est allé dans les établissements, on a pris compte des réalités de travail de chaque établissement, des potentialités des uns, des difficultés des autres, des résistances encore d'autres collègues, et puis on a essayé de monter cette formation. Donc là, il y a aussi une manière de réenvisager aussi le dispositif de formation, à la fois sur du pluricatégoriel, c'est-à-dire qu'on intervient avec des chefs d'établissement, des IEN, le secrétaire du comité exécutif, mais aussi avec des collègues, et puis avec le concours de la recherche et du corps d'inspection. Je crois que ça aussi c'est important de le dire, parce que là il y a aussi tout un travail qui est en train de s'amorcer, ça n'engage que moi, je crois qu'il n'était même pas envisageable et pas pensable il y a encore une dizaine d'années.
Alors on va
Parce que si moi j'entends bien, en termes de levier, donc j'avais une réponse dans la fin, c'est effectivement le levier institutionnel quand même, hein, donc une inscription institutionnelle. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont libéré du temps pour les collègues du GAP ou est-ce que ça se fait sur la base du volontariat? Et est-ce que vous, du coup, vous acceptez en tant que laboratoire de recherche de travailler, j'irai gratuitement? J'ai l'air un peu... d'accrocher sur les sous, mais parce que je viens d'être obligé de signifier à des gens qu'on ne pouvait pas bosser avec eux parce qu'on n'avait pas les sous qu'ils nous demandaient. Donc,
Non, mais ce qu'on peut préciser, c'est qu'on a un statut, comme Luc, comme Patrick, jusqu'à il y a deux ans, étant enseignant-chercheur à l'IUFM, l'intérêt, ça offre une possibilité qu'on essaie de développer là, dans le travail qu'on fait avec le groupe d'appui pédagogique, qui fait que les interventions qu'on fait auprès des collègues du GAP, sont comptabilisées dans notre service de formateur UFM. Donc du coup, c'est à la fois, on est à la charnière entre la recherche et la formation, mais c'est une façon justement de permettre une viabilité du dispositif. Pour partie, parce que bien sûr, il y a toujours une part relativement bénévole, militante, etc., mais il y a quand même une prise en charge de...
On avait promis qu'on finissait à 16h. Il y a des gens qui ont des trains à prendre très rapidement. Donc, juste, on termine justement sur la possibilité de créer ces collectifs de travail, d'inventer des choses avec les ressources et les contraintes, avec les questions d'heures, de rémunération, etc. Mais avec des ressources aussi, avec des possibilités. Donc, c'est ouvert. Donc, moi, je vous propose, si vous le souhaitez, je peux relayer des choses, on peut aussi être un collectif de travail qui continue par la suite si vous le souhaitez. Et en attendant, je vous souhaite un bon retour dans vos établissements, dans vos académies respectives. Et merci beaucoup pour votre engagement dans ces deux journées de travail.